On peut travailler à avoir de bonnes relations, mais ça ne veut pas dire qu'on va totalement éviter les désaccords, les problèmes ou les conflits au niveau relationnel. Alors, si le conflit n'est pas évitable, voyons comment le gérer au mieux. Et c'est cet aspect-là, cet angle-là que je voudrais aborder avec vous. Ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu ensemble. Il faut garder à l'esprit, évidemment, tout ce qu'on a pu partager sur la manière de tisser de bonnes relations. La prédication, le partage que je vais faire avec vous ce matin, le but, c'est pas comment bien entrer en conflit. Le but, c'est pas de justifier les conflits que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais c'est comment est-ce qu'on peut aborder, comment est-ce qu'on peut envisager au mieux un désaccord ou quelque chose qui nous oppose. Mettons-nous bien d'accord sur ce qu'est un conflit. Le conflit, pour vraiment donner la définition la plus simple possible, je dirais que c'est la manifestation d'un désaccord. Ça a lieu, le conflit a lieu quand deux opinions différentes se heurtent. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Alors, il y a souvent, dans un premier temps, une phase de latence où le conflit n'est pas évoqué, il n'est pas exprimé. Et après, il y a une phase où on va entrer un peu plus dans la confrontation, où on va être dans l'explication. On va confronter des opinions, des sentiments qui sont différents. Et c'est ça que j'appelle le désaccord ou le conflit. Et je voudrais voir dans une première partie avec vous comment envisager le conflit. Pourquoi est-ce que je commence ce partage en posant cette question? Parce que généralement, le conflit n'est pas envisagé comme une bonne chose. En raison de cette perception négative du conflit, souvent, on préfère l'éviter. Alors, quelles sont les raisons de cela? Pourquoi est-ce qu'on préfère éviter le conflit? La première chose, c'est que le conflit évoque la violence. Et ça semble contradictoire avec l'idéal de relation pacifique que nous avons en tant que chrétiens. On l'a vu ensemble, Jacques nous invite à avoir des relations paisibles. Et on se dit, si j'entre en conflit avec quelqu'un, si j'exprime mon désaccord, je vais être en contradiction avec cette aspiration à tisser des relations paisibles. Et dans notre esprit, conflit, ça veut dire guerre. On parle de la Seconde Guerre mondiale, quelquefois on peut utiliser l'expression « second conflit mondial ». Donc guerre, ça veut dire blessure. Guerre, ça veut dire mort. Et on se dit, si je suis en désaccord avec quelqu'un et que j'exprime ce désaccord, que je prends le risque du conflit, il risque d'y avoir des blessures. On risque de perdre quelque chose, peut-être de perdre la relation elle-même. Et c'est pour ça qu'on est très hésitant, on est mal à l'aise avec cette idée du conflit. La première chose que l'on peut souligner et qu'il est important d'intégrer, c'est que il ne faut pas confondre le conflit avec la violence. Ce sont deux choses bien différentes. Le conflit est un désaccord. C'est une opposition d'opinion, une opposition d'idées. Mais ça n'implique pas automatiquement la violence. Et je pense que pour pouvoir bien gérer les désaccords qu'on peut rencontrer dans notre vie, c'est d'abord de dissocier le désaccord, le conflit, de la violence. Il ne faut pas les assimiler comme ça ensemble. Le conflit, c'est la phase dans la relation où l'on se confronte l'un à l'autre, où l'on exprime ses désaccords. Et même si on a des choses désagréables à se dire, ça peut se faire dans la paix, ça peut se faire pacifiquement, ça peut se faire dans le calme, dans la douceur, et dans le respect surtout. Si je me programme à respecter la personne avec qui je suis en désaccord, je peux exprimer mon désaccord sans lui tomber dessus. Il y a cette parole qu'on trouve dans le livre des Proverbes, puisqu'on parle de sagesse. Vous savez que les Proverbes, c'est un ensemble de consignes, de préceptes de sagesse. Au chapitre 15 et au verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ». Ça veut dire que dans la confrontation que je suis appelé à avoir avec quelqu'un, je peux faire le choix d'une parole douce, d'une réponse douce, et vous voyez que l'effet, c'est que ça calme la colère, le malaise, la fureur, ou je peux faire le choix d'une parole dure, et le résultat de cela, ça va plutôt être l'affrontement violent. Je peux faire le choix de la paix, je peux faire ce choix-là pour m'expliquer, pour pouvoir exprimer mon opinion et entendre l'opinion de l'autre. La violence s'exprime quand on est dans un rapport de force. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Mais la violence, elle s'exprime quand je veux à tout prix imposer mon point de vue, quand je veux à tout prix avoir raison. Mais si on envisage cette possibilité-là, on s'aperçoit que le conflit peut être l'occasion d'être dans l'échange. Ça peut être une occasion de se faire comprendre de l'autre. Là, on n'a pas la même opinion, mais peut-être que justement, il ne comprend pas ce que je ressens, il ne comprend pas ce que je pense. Et c'est l'occasion aussi pour moi de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi il fait ces choix-là, de comprendre pourquoi il a ce langage-là. Ça peut très bien se faire dans la paix, dans le calme et dans le respect. Première chose, n'associons pas systématiquement le conflit à la violence. Deuxième raison qui fait que l'on évite d'exprimer nos désaccords, c'est que le conflit nous met face à nos insuffisances et à nos faiblesses. On évite le conflit parce que c'est désagréable de constater qu'on n'a pas pu communiquer convenablement, qu'on n'a pas pu se faire comprendre, qu'on n'a pas bien pu comprendre l'autre, qu'on n'a pas pu éviter les malentendus. On se dit mince, quand même. Là, c'était pas ce que je voulais, mais c'est à ça que je suis arrivé dans la relation que j'ai avec un tel ou un tel. On voit, on est mis face à nos erreurs, on est mis face à nos maladresses, on est mis face à nos insuffisances. Et on n'aime pas ça, c'est désagréable. Alors bon, on préfère éviter la confrontation, l'expression du désaccord pour cette raison-là, mais il faut quand même admettre les uns et les autres. Alors je sais que c'est difficile, mais nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes faillibles. Et accepter nos faiblesses et nos erreurs, c'est la condition à remplir pour permettre de les surmonter. Et la confrontation, l'expression du désaccord, va me permettre, si je gère bien les choses, de pouvoir dépasser mes maladresses, d'en prendre conscience pour ne pas les reproduire, d'être mis face à mes erreurs, mais dans le but de m'améliorer et d'améliorer la relation avec les gens qui m'entourent. Le conflit aussi, on n'aime pas ça parce qu'on le considère comme un échec. Le conflit révèle que l'on n'est pas parvenu à entretenir de bonnes relations avec notre entourage, alors même que c'est l'un de nos principaux objectifs, surtout en tant que chrétien. On cherche à entretenir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, et puis là, on n'y est pas arrivé avec une ou plusieurs personnes. Et on se dit, c'est un échec, je vis un échec. Et ça peut être culpabilisant. Mais le conflit peut très bien fournir l'occasion de faire le point sur une relation et de continuer la relation. Le conflit permet de reposer les bases de la relation que j'ai avec la personne. Le conflit ne détermine pas forcément la fin d'une relation. Et souvent, ça, c'est la chose que l'on craint. On dit, ah là, si j'y vais, si je dis les choses, j'ai bien peur que ce soit la fin de la relation. Non, 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 ça ne veut pas forcément dire la fin de la relation. Le conflit offre aussi la possibilité de s'expliquer et permet de continuer à bâtir la relation. Le refus d'admettre un désaccord tue plus sûrement la relation que le désaccord lui-même. Parce que les choses, elles peuvent être là, elles peuvent exister, mais on ne veut pas y faire face, on veut les nier, et la situation, elle reste ce qu'elle est. Et on nourrit quelque chose qui n'est pas bon. On nourrit quelque chose qui risque de nous exploser à la figure à un moment ou à un autre. Donc il vaut mieux envisager de s'expliquer la confrontation plutôt que de l'éviter. Il y a quelque chose que l'on n'aime pas dans le conflit, et j'ai un peu commencé à l'évoquer, c'est que le conflit aussi nous met face à l'inconnu. Il inspire la crainte de la confrontation avec l'autre. Parce que je me dis, si je vais voir la personne, si on se met d'accord pour discuter et pour évoquer ce qui nous oppose, ce qui nous met en désaccord, comment ça va se passer? Comment on va se parler? Qu'est-ce qu'il va me dire? Comment est-ce que je vais lui dire? Quel jugement va être porté sur moi? Toutes ces questions, on se les pose inévitablement et on ne sait pas. On n'a pas les réponses et on n'aime pas ça. On aime bien savoir les choses, on aime bien savoir où on va. Sauf que là, on n'a pas toutes les réponses. Et l'inconnu, ça nous déstabilise. Et on préfère éviter ça, justement, parce qu'on n'aime pas aller vers l'inconnu. Et puis aussi, on ignore ce qui va ressortir de la confrontation. Quelles vont être les conséquences de cette discussion que je vais avoir? Quels vont être les changements que ça va appelé. On n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas le changement. Et ça implique tout ça aussi, la confrontation. Qu'est-ce qu'il va falloir, comment est-ce que je vais pouvoir me projeter avant? Parce que là, je ne peux pas me projeter tant que l'explication n'a pas eu lieu. Quels sont les choix que je vais être appelé à faire? Quel va être l'impact sur ma relation? C'est l'inconnu, tout ça. Alors, on n'aime pas ça. Mais le conflit a un effet libérateur. Le conflit, la confrontation, l'explication, elle permet de sortir du statu quo, qui quelquefois nous enferme, nous emprisonne et nous empêche d'avoir de bonnes relations. Elle nous permet de sortir du statu quo, elle fait bouger les choses. Si les choses restent toujours en l'état, si on sent qu'il y a un malaise, si on sent qu'il y a un problème et qu'on ne fait rien, les choses vont pas bouger et les choses vont pourrir. Mais la confrontation va permettre d'évoquer, d'aborder le problème. Et vous avez peut-être déjà fait cette expérience, du moins je l'espère, mais quelquefois, quand on sait expliquer après, on est soulagé. Il y a un effet libérateur de la confrontation. Ça, vous voyez que tout n'est pas négatif. Et il faut, au contraire, mettre en avant ces aspects positifs de la confrontation pour l'envisager sereinement. Il peut sortir de bonnes choses d'un conflit, parce que le désaccord, à un moment donné, nécessite une explication. Et ça aide à clarifier les situations qui sont tendues pour les débloquer. Comment envisager le conflit? Deuxièmement, comment aborder le conflit? On a vu ensemble ce qui peut freiner la confrontation, l'explication. Voyons maintenant comment aborder le conflit. Là encore, il y a différentes manières de pouvoir l'aborder. Tout d'abord, il y a la fuite. Si vous prenez en considération tout ce que je viens de dire, le plus simple, c'est la fuite. C'est adopter la stratégie de l'évitement. C'est choisir de ne pas faire face aux différends. De toujours remettre l'explication à plus tard. Ouais, ok, on verra ça. Quand on aura le temps, quand tu auras le temps, quand je pourrai, quand j'aurai envie surtout. Ou pire, c'est de faire comme si le problème n'existait pas. Ça, c'est la fuite. Et la fuite traduit la crainte, la peur de l'affrontement. C'est le comportement que Pierre a adopté à Antioche. On va revenir à ce texte, on trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 2. Pierre avait eu l'occasion d'annoncer l'évangile aux païens. Dans un premier temps, l'évangile a été annoncé aux juifs, parce que tous les premiers disciples étaient des juifs. Vous savez que Pierre a annoncé l'évangile à Corneille, le centurion, qui était un païen. Et dans Acte 10, il nous est dit qu'il s'était mis à table, il avait mangé avec les païens. Et ça avait suscité des réactions assez violentes à Jérusalem, parce que les juifs faisaient la distinction entre les aliments purs et les aliments impurs. Et lorsque Pierre revient à Jérusalem, il arrive tout content, il dit « Mais même les païens reçoivent l'évangile, ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu parle et Dieu sauve les païens. » Et à Jérusalem, les chrétiens qui étaient là disent « Mais tu as mangé avec, tu t'es mis à table avec un païen, tu as mangé avec des païens, tu n'as pas fait la distinction entre aliments purs et impurs. » Alors Pierre dit « Mais c'est pas grave, Dieu les accepte quand même. » Dans un premier temps, les gens à Jérusalem disent « Ok, c'est bien, c'est extraordinaire, on voit que Dieu parle aux nations aussi. » Et il se trouve qu'à Antioche, l'évangile a été annoncé, et il y a des centaines et des centaines de païens qui se sont convertis, qui ont donné leur cœur à Jésus. Un vrai réveil dans cette ville, à Antioche. Et lorsque Pierre arrive à Antioche, il fait comme il avait l'habitude de faire avant, il se met à table avec les païens. Il ne fait pas forcément la différence entre les aliments purs et impurs. On est sauvé par la foi, Dieu donne son esprit, donc ça devient secondaire. Et puis, il nous est dit au chapitre 12, c'est Paul qui nous raconte cela, qu'à un moment donné, il y a des gens de Jérusalem qui arrivent à Antioche, donc qui étaient de l'entourage de Jacques, qui était le responsable de la communauté d'Antioche à ce moment-là, la figure dominante de l'église de Jérusalem, pardon. Et il dit, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, des juifs convertis. Quand ces gens-là, qui étaient très soucieux de faire la distinction entre les aliments purs et impurs, arrivent à Antioche, Pierre, terminé, il mange plus avec les païens, il se met plus à la même table qu'eux. Et vous avez vu le vocabulaire qui est utilisé? Il s'esquive, il se tient à l'écart et il agit par crainte. C'est quoi ça? C'est la fuite. Plutôt que de pouvoir se confronter aux personnes avec qui il est normalement à la base en désaccord, il refuse la confrontation avec eux et il prend la fuite. Ça va avoir de terribles conséquences de ne pas faire face à cette confrontation, de ne pas gérer ce désaccord. On y reviendra un peu plus tard. Mais la fuite, c'est pas la solution. Parce que, en fait, Pierre va entraîner d'autres personnes derrière lui, qui vont faire preuve d'hypocrisie. Il mangeait avec les païens avant, et puis à partir de ce moment-là, quand les gens de Jérusalem arrivent, tous ces gens-là, ils font table à part. Ils mangent plus avec les païens. Et même pire, on verra après. La fuite, c'est pas la solution. La deuxième manière d'aborder le conflit, c'est la soumission. C'est quand on accepte d'emblée que c'est l'autre qui a raison. On dit « Ok, d'accord, t'as raison ». On accepte le fait qu'il y a des accords. C'est justement peut-être la différence avec la fuite. Mais on ne se donne pas les moyens de la confrontation. Ça traduit un manque de confiance en soi. On se dit « Toi, de toute façon, j'ai pas les arguments, j'ai pas l'intelligence, je vais pas y arriver. Donc, c'est lui qui a raison et je me soumets ». Ça traduit aussi la crainte d'être cause de désordre. On dit « Oh, moi, je veux la paix ». Et on fait des fois la paix à tout prix, et on se soumet. On rentre pas dans la discussion et dans l'explication. Ça, c'est un comportement qui peut être déterminé par la peur d'être rejeté, par la peur de ne plus être apprécié, de ne plus être aimé. Ok, j'accepte ce que dit l'autre et je me soumets. Je ne vais pas entrer dans la discussion parce que si je rentre dans la discussion, il va peut-être plus me voir de la même manière. Il va peut-être plus m'apprécier de la même manière. Il va me voir plutôt comme une cause de problème. Il va me considérer comme étant à l'origine de la discorde. Et pour éviter ça, ben je me soumets et j'accepte tout. C'est pas la bonne solution. Là, il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a l'agression, qui est une autre façon d'envisager le désaccord, le conflit. L'agression, c'est une démarche qui consiste à prendre l'avantage sur l'autre et à se mettre en position dominante dans la confrontation. Et généralement, ça traduit un sentiment plutôt d'insécurité. Pourquoi on agresse ? Pour ne pas être agressé. On veut prendre le plus rapidement possible l'avantage pour dominer et garder le contrôle sur la situation. C'est une manière de s'affirmer. Ça prouve qu'on maîtrise la situation. Mais cette façon d'aborder le conflit, elle ne donne rien de bon parce que soit elle provoque l'agressivité en face, et donc là on n'est plus dans la logique de tempérer les choses comme on l'a vu dans Proverbe, ou alors elle contraint l'autre à se soumettre. Et on vient de voir que ce n'était pas la solution non plus, parce que le problème n'est pas réglé si les deux parties ne s'expriment pas. Le conflit ne sera pas résolu. Et puis, vous avez le stade d'au-dessus de l'agression, qui est la manipulation, qui consiste à dominer l'autre, mais en douceur, sans qu'il n'y paraît. C'est le plus terrible, ça. En employant des moyens détournés, en faisant jouer les ressorts affectifs. Le manipulateur, il cherche à régler le conflit en sa faveur, sans prendre en considération les intérêts de l'autre. En fait, l'autre en face, ça ne l'intéresse pas. Son objectif, c'est d'être le seul gagnant dans le conflit. Il y a bien des procédés pour manipuler. Le mensonge, mentir, le chantage affectif. Oh là là, après tout ce que j'ai fait pour toi, comment est-ce que tu peux me parler comme ça, hein? Et si t'étais un bon père, tu ne parlerais pas comme ça, ou tu m'aiderais autrement. Hein, si t'étais un bon fils, mais tu ne te permettrais pas de tenir de tels propos à mon égard. On va jouer sur l'affectif, on va pas être à l'écoute de l'autre, mais on va essayer, en passant notamment par la culpabilisation, là, d'amener l'autre à considérer qu'il a tort. La flatterie aussi, hein. La flatterie, c'est... Ça, c'est très étonnant, hein, comment ça peut fonctionner. Hein, c'est vraiment... Daniel, en fait, j'aime beaucoup travailler avec toi. Je trouve que tu es un gars mais très intelligent. Tu as une capacité d'analyse extraordinaire. À chaque fois que tu prêches, mais je bois tes paroles. Ça me plaît, je suis enrichi, je suis transformé. Est-ce que tu peux m'augmenter? C'est de la manipulation, ça. Ça marche aussi par la dévalorisation. Daniel, non, je suis sûr de ne pas être augmenté. Mais on joue sur ce genre de ressort. C'est très très mauvais. C'est malsain. Très très malsain. La meilleure manière d'aborder la confrontation, c'est le réalisme. Le réalisme et la confiance. C'est admettre que le désaccord existe et c'est s'engager dans la discussion dans le but de faire évoluer la situation. Si on se confronte pour que les choses restent en l'état, ça n'a pas d'intérêt. Mais j'admets qu'il y a un problème, j'admets qu'il y a un désaccord et je vais m'engager dans cette discussion, mais pour que les choses changent, pour qu'elles évoluent. Et c'est ce que Paul a fait à Antioche par rapport à Pierre. Paul n'est pas du tout en accord avec Pierre, avec son attitude. Non seulement Pierre a entraîné d'autres juifs à ne plus manger avec les païens convertis, et Paul nous dit que même Barnabas a été entraîné par l'hypocrisie de Pierre, mais Pierre a aussi cautionné le fait que, sous l'influence des juifs de Jérusalem, des païens se soumettent à des préceptes de la loi. Alors que la prédication de Paul et la prédication de Pierre, c'était que la loi n'était plus nécessaire pour être sauvé, pour pouvoir être accepté par Dieu. Mais les gens qui venaient de Jérusalem avaient ce langage-là, et ça a amené les païens à se soumettre à certains aspects de la loi. C'est ce qu'on lit un peu plus loin, verset 11. « Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, tu manges avec eux hein, comme ils faisaient avant, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Pourquoi est-ce que tu contrains les païens à recevoir certains aspects de la loi alors que ça ne compte pas dans l'obtention du salut. Ça n'ajoute rien à la relation avec Dieu, à la relation avec Christ. Paul fait preuve de réalisme. Il dit, au verset 14, voyant que Pierre ne marchait pas droit, il voit les choses, il en prend conscience et il voit que l'attitude de Pierre n'est pas conforme à l'Évangile. Et il y va avec confiance. Il confronte Pierre face à face. Je lui résistais en face. À un moment donné, Paul est allé voir Pierre, il a dit « Écoute, Pierre, il faut qu'on discute. Je t'aime bien, t'as un super ministère, écoute, je ne veux pas remettre ça en cause, mais là, il y a un gros problème, je ne suis pas d'accord avec toi. » Je lui résiste en face. Réalisme et confiance, jusqu'à avoir ce contact pour pouvoir s'expliquer. On n'a pas trop d'éléments sur comment les choses se sont terminées. Hein. J'espère qu'elles se sont bien terminées, mais en tout cas, il y a vraiment eu cette démarche de confrontation. Elle était nécessaire. Et puis la troisième et dernière partie que je voudrais aborder avec vous, c'est d'où viennent les conflits. Quand on est face à un problème, pour pouvoir augmenter ses chances de trouver la solution et le gérer le mieux possible, c'est de voir d'où vient le problème. C'est un peu comme quand on est touché par une maladie sur le plan physique. Pour pouvoir avoir un traitement approprié, il faut bien voir quel est le problème. Si j'ai une otite et qu'on me donne un médicament pour guérir une gastro-entérite, il y a peu de chances que ça ait des effets. Et bien là, c'est pareil. D'où vient le problème ? Quelle est l'origine du problème ? D'où viennent les conflits ? On n'aura pas le temps de tout voir, mais il y a deux aspects que je voudrais aborder avec vous. Tout d'abord, les conflits viennent de rôles mal définis. On va relire un texte ensemble où il y a eu conflit, avec Pierre encore. Il a vraiment une vie, une expérience riche d'enseignement. Matthieu 16, verset 21. Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tyran à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, ou arrière de moi, Satan, tu me fais obstacle, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre dit à Jésus, Ça ne t'arrivera pas. Jésus est en train d'annoncer à ses disciples, je vais monter à Jérusalem, et là, il va falloir que je sois soumis à la souffrance pour assurer le salut des hommes. Je suis le Messie, je suis le Sauveur, je suis celui qui est promis par les Écritures. Je suis celui que Dieu envoie au peuple d'Israël pour être sauvé, et au monde pour être sauvé. Mais pour que le salut s'accomplisse, il va falloir que je passe par la souffrance, par la mort, mais pour la résurrection, pour une victoire bien plus grande que celle qu'on peut imaginer. Et Pierre dit, non, c'est pas possible. Tu es le Messie. Et le Messie, tel que nous l'attendons, ce sera un Messie victorieux. Il va venir et tu viendras à Jérusalem parce que c'est la ville du roi David. Et là, tu t'assieras sur un trône et tous tes ennemis, tes adversaires s'agenouilleront devant toi. C'est comme ça que le Messie doit agir, un Messie victorieux sur ses ennemis. Pierre demande à Jésus de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Il projette sur Jésus ses attentes personnelles. Et ça crée un conflit que Jésus règle de manière assez rude, hein, comment il s'y adresse, mais il y a confrontation entre Jésus et Pierre à ce moment-là. Il faut que Jésus confronte Pierre pour lui faire comprendre qu'il se trompe. Il ne jouera pas ce rôle-là. Il ne jouera pas le rôle du Messie militaire, du Messie victorieux, du Messie royal, mais il va jouer le rôle qui est prévu qu'il joue. Il va entrer dans la mission et il va accomplir la mission telle que c'est prévu par Dieu, par son Père. C'est celui du Messie souffrant, c'est ce qu'il dit. On a généralement, les uns et les autres, une idée précise de ce qu'est un père, de ce que le rôle qu'il doit jouer en tant que père, de ce qu'est une mère. On a une idée précise de ce qu'est un fils, de ce qu'est une fille, de ce qu'est un mari, de ce qu'est une femme, de ce qu'est un patron, de ce qu'est un employé, de ce qu'est un collègue, de ce qu'est un ami, de ce qu'est un chrétien, de ce qu'est un pasteur. Et le conflit vient quand on considère que toutes ces personnes-là ne jouent pas leur rôle comme ils le devraient. Ils ne jouent pas le rôle qu'on attend. En tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que chrétien. Et ça, ça crée le conflit. Si on prend simplement l'exemple du père, de la mère, parce que en tant que parent, on connaît des conflits avec nos enfants. Et notamment quand les enfants arrivent dans la période de l'adolescence. Dans un premier temps, les enfants, on les prend complètement en charge. Mais quand ils arrivent à l'âge de 12-13 ans, ils sont de plus en plus autonomes, ils veulent être de plus en plus autonomes. C'est un passage obligé. Et on sait que c'est ce qui va les mener vers cette autonomie dont ils ont besoin pour pouvoir assurer leur vie plus tard. Et là, il y a un moment où nécessairement, il faut redéfinir les rôles du père, de la mère, de l'enfant, à ce moment où ils entrent dans l'adolescence. Lorsque nos enfants se lèvent contre nous, ça ne veut pas dire qu'ils nous rejettent en tant que père ou en tant que mère, hein, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'ils attendent que le père et la mère jouent leur rôle, mais autrement, différemment que ce qu'on l'a fait jusqu'ici. Jouer son rôle différemment, ça ne veut pas dire renoncer à son statut de parent. Ça ne veut pas dire renoncer à son autorité. Mais ça veut dire établir de nouveaux rapports. C'est faire évoluer la relation avec nos enfants. C'est pas toujours évident à négocier. Et ça passe par la confrontation. Ça passe par la confrontation. Ce n'est pas parce que vos enfants vous disent qu'ils en ont marre de vous, qu'ils en ont marre d'être à la maison, qu'ils n'ont plus besoin de trouver leurs limites. Ils ont besoin d'un cadre. Et nous, en tant que parents, ce cadre, on leur fournit parce qu'on les aime. Parce que des cadres, ils vont en trouver, hein. On les prépare, en fait, à vivre dans des cadres, notamment le cadre professionnel. Mais la chance qu'ils ont, c'est que les parents définissent ce cadre avec bienveillance et avec amour. Parce que le cadre qui va être défini par un contrat de travail, il sera beaucoup moins bienveillant. C'est pas l'amour qui va guider la relation, forcément, avec le patron, hein, c'est l'intérêt. Donc c'est prendre juste en considération ces choses pour jouer le rôle de parent, mais autrement, d'une manière adaptée. On n'est plus dans la logique de leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que fais ceci, fais cela, patati patata, connaissez la chanson, ça marche entre 0 et 10 ans, 11 ans. Et après un moment, on est plutôt dans la logique de les amener à comprendre pourquoi ils doivent faire les choses. On est moins dans la direction que dans l'accompagnement. Redéfinir le rôle. Si on redéfinit le rôle, si on a une vision claire du rôle qu'on est appelé à jouer, au sein de la famille, par exemple, eh bien là, on gère convenablement les désaccords qui peuvent surgir. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est l'ami, le rôle de l'ami. Qu'est-ce que j'attends que, en tant qu'ami, tu joues comme rôle, notamment par rapport à moi, dans la relation qu'on a ensemble. Quelque temps de cela, j'entendais deux femmes qui racontaient leur témoignage. De femmes qui n'étaient pas chrétiennes, hein, mais elles évoquaient leur expérience d'amitié. Et elles étaient tellement amies, elles étaient voisines, elles étaient souvent ensemble, elles élevaient leurs enfants ensemble pratiquement. Et quand elles allaient faire les courses au centre commercial, il y en avait une qui prenait systématiquement l'initiative de remplir le caddie de son amie. Elle passait dans les rayons, elle savait, elle dit « Ah oui, je sais, c'est tel produit qu'elle prend », puis elle mettait dans le caddie. Le problème, c'est que l'autre, comme elle n'était pas prévenue, elle arrivait à la caisse, elle avait le double à payer, donc ça posait quelques problèmes. Et pour elles, c'était vraiment la preuve qu'elles étaient amies. Là, il y avait quelque chose de quasi fusionnel. Mais on sentait bien que l'autre personne, elle n'était pas aussi à l'aise. Dire, bah ouais, au moins, faudrait me prévenir quand tu mets un pack de lait dans mon caddie. Qu'est-ce qu'elle jouait comme rôle? Est-ce que c'était le rôle de l'ami? Est-ce que c'était le rôle de la mère, finalement? Et il y avait une espèce de confusion. Parce que c'était une amitié un peu intrusive. Et qui renvoie peut-être à un besoin de sa part. Mais elle jouait plus le rôle d'un ami. Elle jouait le rôle d'une mère, enfin de quelqu'un qui prenait en charge la vie de son ami. Le manque de définition du rôle peut entraîner à la confrontation. Il y a besoin, des fois, d'explications. La confrontation et l'explication permettent de clarifier ce que nous attendons des autres. Et ce que nous pouvons apporter ou pas aux autres. Le désaccord donne l'occasion de mieux définir ou même de redéfinir les rôles respectifs que nous avons dans la relation. Voilà ce que j'attends de toi en tant que parent, en tant que père ou en tant que mère. Oui, mais voilà ce que moi en tant que père ou mère, je peux te donner. Voilà ce que j'attends de toi en tant qu'ami. Oui, mais voilà moi en tant qu'ami, ce que je peux te donner. Voilà ce que j'attends de toi en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. Ah oui, mais voilà ce que moi je peux faire en tant que mari ou en tant que femme. Il y a une nécessité là d'avoir une vision claire des rôles, de ce que nous attendons de l'autre dans la relation. Et si ça colle pas, il faut le définir, il faut le redéfinir. Les conflits viennent aussi des besoins non satisfaits. Nos actes sont motivés par la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Je vais vous montrer un schéma, une pyramide que vous avez peut-être déjà vue 100 fois, la fameuse pyramide de Maslow, un psychologue qui, au milieu du XXe siècle, psychologue américain, a défini quels étaient nos besoins fondamentaux. Donc il parle, premier niveau de besoin, ce qu'il appelle les besoins physiologiques, sont les besoins vitaux, c'est manger, boire, dormir. Tout ce qui est nécessaire à notre bon fonctionnement biologique. Deuxième niveau de besoin, le besoin de sécurité. Assurer un environnement stable, un environnement prévisible, qui ne génère ni angoisse, ni anxiété. On a besoin aussi de se sentir en sécurité. Le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'amour, le besoin d'affection. Et ça passe par faire partie d'un groupe. Que ce soit la famille, que ce soit une organisation, une association, un club, une communauté. Il y a aussi niveau de besoin, le besoin d'estime. C'est la reconnaissance. On a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être apprécié par les autres. On a besoin de se sentir accepté. Ça se traduit par des encouragements, des marques d'attention. La reconnaissance de nos compétences. Ah, ça, tu fais bien ton travail, tu fais bien ton service. Et puis, tout en haut de la pyramide, il y a le besoin d'accomplissement, la réalisation de soi. Accomplir ce qui donne du sens à ma vie. D'après ce psychologue, il y a une hiérarchie dans les besoins. Et donc, si les besoins qui sont au plus bas de la pyramide sont satisfaits, on peut satisfaire les besoins qui sont plus hauts. Bon, ça se discute peut-être un peu. Mais ce qui est certain, c'est que l'insatisfaction de ces besoins fondamentaux dispose au conflit. Si vous avez faim, vous êtes disposé au conflit. On parle des besoins fondamentaux, là, des besoins physiologiques. Si vous rentrez chez vous en fin d'après-midi, que vous avez vraiment faim, vous avez mangé juste un sandwich, on dit le midi, supposons. Hein. Vous arrivez, vous ouvrez le frigo, rien du tout. Rien, pas un morceau de fromage, pas, rien. Et puis votre femme arrive le soir à 19h, elle arrive avec les sacs de courses. Elle dit mais pourquoi t'es allé faire les courses aujourd'hui ? Conflit, parce que j'ai faim et mon besoin n'a pas été satisfait. Mais pourquoi t'as pas fait les courses hier ? Bah, parce que c'était dimanche. Ah ok, d'accord. Bah, pourquoi tu les as pas fait avant-hier, samedi ? Bah parce que y avait le rassemblement de fans. Ah conflit. Et pourquoi tu les as pas faites vendredi ? Parce que le vendredi, c'est bondé, il y a trop de monde. Oh, pourquoi tu ne les as pas faites jeudi ? Bah, jeudi, je travaille. Oh, bah alors, pourquoi tu ne les as pas faites mercredi ? Bah, je les ai faites mercredi, mais ça y est, on a tout mangé. Donc, quand on a un besoin fondamental comme ça qui n'est pas satisfait, ça peut mener au conflit. Dans les besoins fondamentaux, on a le sommeil. Alors ça, le manque de sommeil, c'est une cause de conflit hein, aussi. Hein. Quand vous dormez à côté de quelqu'un qui vous empêche de dormir, pour une raison ou pour une autre, on a envie de le dire. Une année, j'étais à un week-end de leader organisé par le DNJ. Donc, je dormais avec trois frères, trois pasteurs, trois hommes de Dieu. Mais ces hommes de Dieu-là, moi, j'ai vite trouvé leurs défauts. C'est qu'ils ronflent, ils ronflaient, mais incroyable. J'ai une véritable symphonie. J'ai jamais entendu ça. J'avais les trois plus gros ronfleurs dans la chambre de quatre où j'étais. C'était énorme. Certains avaient même, vous savez, là, l'équipement, mais le truc, des fois, il tombe hein, pendant la nuit. Donc, c'était à Joseran. Alors, plusieurs connaissent Joseran, on est dans la montagne, c'est calme. Mais là, il y avait un coin du massif central qui était plus calme du tout. La terre vibrait. Oui, voilà, mais c'est le coin du tremblement de terre. Il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien, ils étaient tous partis. Ces trois frères ont eu une grande influence spirituelle sur moi parce que le lendemain matin, pendant le temps spirituel, j'étais dans une profonde méditation. Quand c'était l'heure de manger, ils sont venus dire, c'est l'heure de manger, arrête de prier. Non, ça c'est une cause de conflit. Vous comprenez que ça met sur les nerfs hein, quand on n'a pas dormi. Ça peut gérer des conflits. Bon voilà, quelques exemples de besoins fondamentaux. Mais il y a un besoin fondamental qui me parle en particulier, c'est celui de l'estime, le besoin d'estime. On peut revenir à un texte aussi qui va nous permettre d'illustrer ça. C'est Luc chapitre 10, au verset 38. C'est la fameuse histoire de Marthe et Marie. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise au pied du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Certainement que Marthe a de quoi assurer beaucoup de ses besoins fondamentaux. Besoins physiologiques, elle est en train de préparer de la nourriture, donc de ce côté-là, c'est bon. Son besoin fondamental va être satisfait. Besoin d'appartenance, certainement aussi, parce qu'elle fait partie d'une famille, Marie, Lazare, hein, sa sœur, son frère. Elle appartient à un groupe d'amis, à un groupe de disciples, qui sont les disciples de Jésus. Le besoin de sécurité, c'est peut-être un peu moins évident, parce qu'elle voit arriver 12 bonhommes à la maison, comme ça, d'un seul coup. Donc plus Lazare, plus Marie, plus elle, ça fait quand même 15 personnes à nourrir. Alors je ne sais pas s'ils avaient annoncé qu'ils allaient arriver, mais s'ils arrivent comme ça d'un seul coup, Lazare arrive, Marthe, faut préparer à manger, il y a Jésus et ses disciples qui arrivent. Oh, je devais faire à manger pour 3 personnes, et en fait je vais faire à manger pour 15 personnes. Donc là, y a, la routine, elle est un peu mise à mal. Donc, d'ailleurs, Jésus lui dit, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Donc, là, elle est un peu touchée dans son besoin de sécurité. Et puis, par contre, ce qui est évident, c'est que son besoin d'estime, lui, n'est pas satisfait. Et ça, on le voit dans sa façon de s'adresser à Jésus, d'interpeller Jésus. Elle l'interpelle publiquement. Elle aurait pu aller voir Marie, par exemple. Elle aurait pu dire, mais Marie, tu pourrais me donner un coup de main parce que là, je suis au fourneau, j'en peux plus, je cours à droite, je cours à gauche. Il y a un taf énorme, j'ai besoin d'aide. Elle aurait pu faire ça. Ou si elle avait voulu s'adresser à Jésus, Elle aurait pu voir Jésus en aparté, en disant « Jésus, excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais demander à Marie qu'elle puisse me donner la main pour la préparation du repas ?» Mais elle fait pas comme ça. Elle se plante devant Jésus et elle interpelle Jésus publiquement. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça provoque ? Elle attire l'attention. Elle attire l'attention de toutes les personnes qui sont dans la pièce, qui sont réunies autour de Jésus. Elle entre en conflit avec sa sœur et elle se met au-dessus de sa sœur. Parce qu'elle dit « Moi, je suis en train de bosser et toi, tu fiches rien. » C'est le message qu'elle est en train de lancer. Donc, je me place au-dessus pour pouvoir me valoriser. Et elle entre en conflit aussi avec Jésus parce qu'elle reproche à Jésus de ne pas dire à Marie de l'aider. Donc, elle manifeste bien haut et bien fort son désaccord. Elle exprime en faisant cela son besoin d'être reconnu, son besoin d'être estimé. Ça signifie que si elle s'agite, c'est en partie, il y a du boulot, bien sûr, mais c'est aussi en partie pour être remarqué. Oh, regardez comment je suis en train de couper le pain, la viande. C'est pour qu'on la voie. Par ses compétences culinaires, domestiques, elle réclame l'approbation et l'affection dont elle a besoin. La réponse de Jésus, c'est « Fais comme Marie. » Boum, la confrontation, elle est violente là aussi. « Fais comme Marie. Écoute ma parole. » Marie, elle écoute ma parole. Elle est à mes pieds. Elle est dans la position du disciple qui écoute son maître. Et ça, dit Jésus, c'est ce qui est vraiment nécessaire. Parce que ce qui va répondre à tes besoins, c'est pas le fait de préparer un repas. Ce qui va répondre fondamentalement à tes besoins, c'est de te mettre à l'écoute de ma parole. C'est pour ça que écouter la parole, dit Jésus, c'est la bonne part. Marthe, elle pensait que le point d'orgue de cette réunion de Jésus avec ses disciples et avec sa famille, ça allait être le repas. Elle savait certainement que Jésus aimait beaucoup être à table avec ses amis. On le voit régulièrement quand on lit les évangiles. Il est à table et il profite de ses repas pour pouvoir partager son enseignement avec ceux qui l'entourent. Et elle se dit, mais là on va faire un bon repas, ça va être dur et tout, mais le point d'orgue de cette réunion, c'est le repas que je vais préparer. Ce repas serait le résultat de son implication, de son activité, de son service, et tout le mérite allait lui revenir. Et Jésus dit, mais non, c'est pas la bonne part. Parce que quand le repas sera terminé, il faudra que tu en prépares un autre pour avoir d'autres félicitations et pouvoir être à nouveau reconnu et être à nouveau estimé. Ça veut dire que tu vas jamais en sortir. Il va falloir que tu prépares des repas toute ta vie pour montrer que tu existes et pour pouvoir capter l'amour des autres, l'appréciation, la reconnaissance, l'estime des autres. Par contre, si tu te mets à l'écoute de ma parole, si tu te mets à l'écoute comme le fait ta sœur Marie de ce que j'ai à dire, ça va avoir un impact durable. Ça va communiquer quelque chose que tu vas recevoir pour l'éternité et qui va parfaitement répondre à tes besoins. Bien plus que la préparation d'un repas, bien plus que le résultat de ton activité, cette parole que je partage avec toi, cette parole que je vais te donner, elle va changer quelque chose dans ton cœur. Elle va répondre à un besoin fondamental, quelque chose que tu recherches chez les hommes, et que moi, Jésus, moi, le Fils de Dieu, je peux te donner parfaitement. Je peux combler ce besoin. Alors viens te mettre à mes pieds, viens dans ma présence, viens m'écouter. Et c'est cette démarche en tant que chrétien, en tant que chrétienne, que nous sommes appelés à avoir. Cette parole que nous partageons encore ce matin, elle nous conduit dans la présence de Jésus. Elle nous conduit aux pieds de Jésus et à trouver dans son amour, dans l'intérêt que lui, il nous porte, la reconnaissance, l'estime dont nous avons besoin. Si nous avons cette démarche, on ne va pas courir, on ne va pas se fatiguer à capter l'attention des autres et à chercher l'amour qui restera imparfait et limité des hommes qui sont autour de nous. Mais on trouvera cet amour puissant, cet amour éternel qui nous imprègne, qui nous change, qui nous transforme et qui nous donne cette paix intérieure. Je n'ai pas besoin de me valoriser pour exister. Parce que j'existe parce que Dieu a voulu que j'existe. Et de réaliser cela, ça me suffit. Mon besoin est satisfait. Le meilleur moyen d'éviter ou de régler les conflits, c'est de trouver en Dieu la réponse à nos besoins. C'est de ne pas dépendre des autres pour cela. On a des promesses extraordinaires dans la Bible. Jésus lui-même a fait des promesses extraordinaires. Il a promis de pourvoir à nos besoins matériels. Il prend l'exemple des oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Et pourtant, ils peuvent se nourrir tous les jours parce que Dieu prend soin de regarder les lys des champs. Et il les compare à Salomon dans toute sa gloire, le roi Salomon. Et il dit, les lys des champs sont beaucoup plus beaux que Salomon avec ses vêtements royaux. Parce que Dieu prend soin des fleurs. Il dit, mais alors ? Ne vous inquiétez pas, s'il prend soin des oiseaux et s'il prend soin des fleurs qui sont destinées à aller au four, dit-il, mais Dieu va prendre soin de vous. Vos besoins physiologiques, vos besoins matériels, Dieu s'en charge pourvu que vous ayez cette démarche de foi, de confiance, que vous regardiez à lui pour qu'il puisse pourvoir à vos besoins. Dieu a promis de veiller sur moi. Je peux trouver en lui la sécurité dont j'ai besoin, ce sentiment fondamental de sécurité qui m'est nécessaire. Dieu a promis de m'accompagner, de me protéger, d'être là à mes côtés dans les moments de tristesse, dans les moments d'inquiétude. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Tu es dans ma présence, je suis là. Comme cet appel à Marthe, viens dans ma présence, je suis là, je réponds à ton besoin de sécurité. J'appartiens à la famille de Dieu. Et ça répond à ce sentiment d'appartenance. C'est concrétisé par ce que nous formons ensemble, l'Église, cette communauté dans laquelle nous sommes appelés à être des frères, des sœurs, les uns pour les autres. Dieu m'accepte tel que je suis. Dieu m'aime tel que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il veut que je reste tout le temps comme je suis. Il y a des choses à changer, mais il m'accepte comme je suis pour me permettre de changer. Ce qui fait que je peux vraiment rentrer dans sa présence sans crainte d'être condamné, sans crainte d'être rejeté. Et j'existe parce que Dieu m'a voulu. Je ne suis pas venu en ce monde par hasard. J'ai un destin. Je ne suis pas livré au hasard des circonstances. Les circonstances ne sont pas maîtres de moi et on le croit si facilement, mais j'ai un destin. Les choses sont peut-être pas toujours très claires. Je ne sais pas quelle direction prendre dans ma vie. Je ne sais pas comment je peux faire pour me projeter dans l'avenir. Mais Dieu a voulu que je sois là. Dieu a voulu que je remplisse une mission. Dieu m'a voulu pour quelque chose. J'existe. Ma vie a un sens quand je crois en Dieu et quand je place ma vie en Dieu. Si nous avons des désaccords, si nous connaissons des conflits les uns avec les autres, c'est d'abord en raison du conflit que nous avons avec Dieu, personnellement. À la base, au départ, on a tous un problème avec Dieu. On a tous un problème relationnel avec Dieu, à cause du péché, à cause du mal qui est en nous. Et ça fausse tout, ça fausse toutes nos perspectives. Et c'est l'impact de ce péché qui fausse nos relations aussi. Et Jésus qui a toujours été d'accord avec son Père. Jésus, qui n'a jamais été en conflit avec Dieu, a accepté de mourir pour notre péché. Comme s'il y avait un désaccord, comme s'il y avait un conflit avec Dieu, alors qu'il a toujours été d'accord avec Dieu et il lui a toujours obéi. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est au pied de Jésus qu'il faut être. C'est pour ça que notre attention et notre foi, c'est sur Jésus qu'il faut la fixer, parce que tout vient de lui, tout est accompli par lui. Le conflit, certainement, me montre que je ne fais pas toujours les choses très bien, que je suis imparfait, que mes relations ne sont pas parfaites, que mes attentions, même si elles sont pures, elles sont vrillées, elles sont faussées, à cause de mes erreurs, mes imperfections. Mais parce que Jésus est mort pour mon péché, le conflit n'est pas une fatalité. L'adversaire, le diable qui veut détruire nos relations, lui, il veut nous faire penser que soit c'est pas la peine de régler le conflit, ou alors il va nous amener à nous affronter pour nous détruire. Mais c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Jésus veut. Il n'y a pas de fatalité parce que la puissance de la mort, la puissance du péché, elle est vaincue. Et si je me mets au bénéfice de ce que Jésus a accompli pour moi, ça va avoir un impact sur ma manière d'envisager même mes désaccords. Ce n'est pas une fatalité. Je peux compter sur la présence de Dieu dans ma vie. Je peux compter sur la conduite de son son esprit pour avoir les bonnes paroles et pour gérer au mieux mes désaccords et mes confrontations et mes conflits, pour pouvoir aboutir à quelque chose de nouveau. Avec Dieu, on va toujours vers quelque chose de nouveau. Avec Dieu, les choses ne sont jamais réglées une fois pour toutes, les choses négatives, mais on a toujours la perspective de pouvoir avancer, que les choses changent, que les choses évoluent. Alors on va se mettre à l'écoute de Dieu et je voudrais vraiment faire cette prière ce matin pour que les choses qui ont besoin de faire écho dans votre cœur, qui ont pu être partagées dans le cadre de ce partage qu'on a pu avoir ensemble, là, puisse y avoir cet écho profond. Et que ce soit dans la manière d'envisager le conflit, et soit peut-être même si vous êtes en conflit ou en confrontation, que le Seigneur soit là, que sa présence soit là. Et que vous puissiez être en mesure de pouvoir vivre cette confrontation, ce désaccord, dans les meilleures conditions, pour quelque chose de meilleur. Si on s'arrête aux choses humaines, si on s'arrête aux considérations humaines, on voit pas comment on peut s'en sortir. On peut avoir le réflexe de la fuite, le réflexe de la soumission, on peut avoir le réflexe de l'agression, de la manipulation, j'espère pas, parce que là c'est très très problématique. Mais le réflexe qu'on est appelé à acquérir en tant qu'enfant de Dieu, c'est celui du réalisme et de la confiance. J'ai en moi ce qu'il faut, avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, j'ai en moi ce qu'il faut pour me permettre d'envisager la confrontation sans que ce soit destructeur. Mais au contraire, ça va être constructeur, ça va être positif, ça va permettre de pouvoir aller plus loin, de renouveler la relation. Que le Seigneur puisse aussi être en mesure de nous aider à convenablement définir les rôles que nous sommes appelés à jouer, les uns par rapport aux autres. Que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit ici dans l'Église aussi, qu'on puisse vraiment là avoir un rôle précis de ce que l'on peut faire et un rôle précis de ce que les gens peuvent nous donner dans leur relation, dans la relation que nous avons avec eux. Que le Seigneur puisse aussi répondre à nos besoins. Ça, c'est le plus important. Que le Seigneur réponde à nos besoins fondamentaux. Comptons sur lui ce matin pour qu'il puisse nous donner, transférer par son esprit ce qui nous est nécessaire. De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin là de trouver la sécurité? Est-ce que je me sens triste, anxieux? Est-ce que mon environnement, est-ce que les circonstances que je traverse là provoquent en moi cette inquiétude, provoquent en moi cette anxiété? Seigneur, je veux regarder à toi et trouver en toi ma sécurité. Seigneur, je me sens rejeté. J'ai besoin là d'appartenir à un groupe. J'ai besoin de me sentir apprécié, de me sentir aimé. Seigneur, que l'Église puisse assurer ce rôle. Je te demande, Seigneur, que notre Église puisse assurer ce rôle, que nous puissions être ouverts les uns aux autres et dans les relations que nous sommes appelés à tisser les uns avec les autres, que en tant que membres de l'Église, nous puissions être là pour accueillir, être là pour écouter, être là pour reconnaître ce que les autres autour de moi ont de bon à apporter. Seigneur, j'existe pour un but. J'existe pour un but parce que c'est toi qui m'as créé. J'existe pour un but parce que c'est toi qui m'as voulu. Alors je ne veux plus croire que je n'ai pas de sens à ma vie, je n'ai pas de sens à mon existence. Je ne sais pas du tout la direction que ma vie peut prendre. Je ne sais pas là du tout quelles sont les choses, comment les choses vont se présenter. Mais ce que je sais, c'est que ma vie est dans ta main. C'est que toi qui es mon créateur, tu as tout prévu pour moi. Et que mon existence n'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas une poussière du cosmos. Mais je suis un enfant de Dieu. J'ai été désiré. Dieu a voulu que j'existe. Seigneur, toi, tout ce que nous voulons placer devant toi, tout ce que nous avons pu partager ensemble, donne-nous de pouvoir recevoir de ta part ce matin, de pouvoir avancer dans notre réflexion, de pouvoir évoluer là où nous avons besoin d'évoluer. Seigneur, viens changer les choses qui ont besoin d'être changées. Viens nous aider à envisager la confrontation, le désaccord, dans les meilleures conditions, Seigneur, pour qu'il puisse en ressortir quelque chose de constructif. C'est notre prière aux uns et aux autres. Encore une fois, nous ne voulons pas nous reposer sur nos propres forces. Nous ne voulons pas simplement lire ce qu'il y a dans la Bible et se dire « maintenant, je vais le mettre en pratique ». Parce que nous connaissons nos limites, nous connaissons notre incapacité. Et nous voulons vraiment faire preuve d'humilité en te demandant « Seigneur, viens à notre secours, viens nous aider ». Notre désir, c'est de bâtir de bonnes relations. L'enjeu de nos relations dans cette Église, c'est de rayonner, c'est de faire envie. c'est que les gens qui sont sans espérance, les gens qui sont sans appartenance, que les gens qui se sentent continuellement dans l'insécurité puissent se dire, quand je viens ici, là je sens quelque chose de différent. Il y a la paix, il y a l'écoute, il y a tout ce dont j'ai besoin. Viens combler nos besoins. Viens combler ces besoins fondamentaux, afin que nous soyons en mesure de pouvoir répondre aux besoins des autres, de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, agis par ton esprit. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est si riche. Merci Seigneur pour cette possibilité que nous avons de nous adresser à toi simplement par la foi. Nous n'avons rien à accomplir, mais simplement à te faire confiance, afin que toi tu puisses avoir la possibilité par ton esprit d'agir en chacun d'entre nous. C'est ce qui nous permet de changer. C'est cette relation avec toi. Nous voulons être comme Marie, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, en étant à l'écoute de ta parole, ça nous permet d'être à tes pieds. Ça nous permet d'être dans ta présence. Et c'est ce que nous voulons rechercher par-dessous tout. Ta présence, l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies, pour que les choses changent véritablement. Accomplis ce miracle encore dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen.